Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans une heure en série, le seul et unique 55 minutes chrono de la radio pour débattre de l'actualité des séries et vous recommander le meilleur de celles-ci grâce à l'avis souvent affûté, parfois mordant, mais jamais de mauvaise foi de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur. Non, c'est vraiment pas le genre de la maison. Hein. Une heure en série, c'est la saison 3, c'est l'épisode 13 et ce soir, nous parlerons Ange de la mort et Damnation éternelle avec Hellbound sur Netflix, Magie noire et humanité menacée dans The Wheel of Time sur Prime. Et enfin, grossesse tardive et, attention, celui-là, je l'ai travaillé, femme au bord de la crise de mer avec Lena et ses filles sur Arte. Je prends les applaudissements, bien évidemment.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir, Marjolaine Boutet de Phosphore. Bonsoir, bonsoir Marjolaine. Tout va bien?
Très bien, comme un mois de novembre.
Oui, c'est ça, on est d'accord. Ava Cahen de French Mania, bien sûr.
Salut,
bonsoir
tout Ava. Le monde.
Et évidemment... Benoît Lagane,
bonsoir.
On se retrouve dans le 5-7 de Mathilde Munoz et sur Télé Matin, il y a un courrier.
Ah.
Étrangement de Céline Stutzmann qui vous est adressé, Benoît.
Ah, oui, je crois savoir pourquoi.
Vous pouvez. Bonsoir, j'espère que vous avez réglé son compte à Benoît.
Oui.
Je n'avais vu ni le film, ni la série L'Amour Flou. Bon ben, grâce à lui, je connais la fin. Fin que j'aurais aimé découvrir toute seule. Ne spoilez pas les séries. Mmh. Alors, ne dévoilez pas, ne divulgâchez pas le plaisir des fins de série. Sinon, je n'écouterai plus votre émission que j'adore.
Alors,
vous me faites perdre des auditeurs.
Ouais,
Benoît,
non, mais je m'excuse. On est bientôt à la 100e sur presque 100 émissions. C'est peut-être la première fois que je dis une fin de série, mais c'était peut-être parce que j'étais un peu agacé. Ça peut arriver. Je m'en excuse. Je me serais envoyé un courrier moi-même, je crois.
D'accord. Très bien. N'hésitez pas à le faire. Je lirai avec plaisir. Un petit mot pour vous signaler les rencontres du Havre sur les séries qui se tiendront donc au Havre du 2 au 5 décembre. 4 jours de réflexion, de débat, de rencontres sur le thème les séries et nos futurs. En quoi les séries peuvent-elles nous aider à voir plus clair après cette période troublée? Comment les séries avaient-elles imaginé le futur? Comment suscitent-elles des réflexions et nous aident à penser? Des rencontres gratuites ouvertes à tous qui se dérouleront soit à la bibliothèque Oscar Niemeyer, soit au cinéma Le Studio ou encore à l'Université du Havre. Je trouve que c'est un rendez-vous plutôt intéressant.
Très belle manifestation.
Si à la sortie de votre douche ou en faisant tranquillement vos courses, un ange inquiétant se matérialise devant vous pour vous annoncer prématurément et précisément la date de votre proche trépas, eh ben n'essayez pas de fuir, c'est inutile. Préparez-vous juste à mourir dans d'atroces souffrances, car à l'heure dite, des créatures étranges faites de fumée et de cendres brûlantes vous entraîneront impitoyablement en enfer. Ouais, tremblez là, tout ce que vous êtes autour de cette table. Elle bande une série coréenne en 6 épisodes disponibles sur Netflix. L'apparition de ces soldats de la mort s'accompagne de la renaissance d'un groupe religieux hyper orthodoxe, et totalement fanatique qui profite de la panique générale pour étendre son bras inquisiteur. Car les victimes de ces créatures infernales seraient toutes et tous coupables d'exactions. Un policier au lourd passé traumatique et une avocate qui enquête depuis longtemps sur cette secte chrétienne vont tenter de percer les nombreux mystères de cette histoire inspirée du manga coréen éponyme paru en France chez Delcourt.
J'en vois apparaître une créature étrange. Je les avertis qu'ils vont mourir et... qu'ils seront emmenés en enfer à la date qu'on leur a annoncée.
La nouvelle vérité. D'après la nouvelle vérité, c'est pour mettre en garde toute la population.
C'est étrange de mener une enquête sur un acte de Dieu.
Alors selon eux, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une punition de Dieu.
C'est un avertissement. Je suis condamné à aller en enfer.
Ils ont l'air de croire que c'est bientôt la fin du monde.
Les voilà !
Qu'est-ce qui peut bien pousser les gens au repentir, sinon la peur ?
Hellbound, une série créée par Yeon Sang-ho, auteur au cinéma d'une poignée de grands films, ça, c'est très personnel mais je le pense, parmi lesquels le film d'animation King of Pigs et le formidable et sardonique film de zombies Dernier Train pour Busan, avec dans les rôles principaux Ah In-woo et Jung-min Park. La presse, elle est partagée. Pour Télérama, c'est une enquête brouillonne, des personnages sans véritable épaisseur et une bonne louche de terreur à gros budget. Pour West France, en revanche, c'est une série fantastique plus engagée et pertinente qu'il n'y paraît. Benoît,
Eh ben, moi, je trouve que on sort du phénomène entre guillemets Squid Game. Donc, du coup, je regardais cette série avec attention, en me disant qu'est-ce que j'ai loupé sur Squid Game. Est-ce que cette série va me réconcilier ou me concilier avec les séries sud-coréennes? Et j'avoue que ce que j'ai apprécié dans un premier temps, c'est que j'ai trouvé au moins que par rapport à Squid Game, cette série, elle avait une morale beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. On sait tout de suite ce que ça nous raconte, peut-être même à gros traits parfois, mais au moins, c'est clair et précis. Je trouve que la place aujourd'hui que prennent les religions, la question de Dieu, de comment on réinvente et comment on s'approprie ce divin, je trouve que les questions sont vraiment posées, sont clairement posées. Il y a des moments de douceur qui sont assez agréables dans l'intimité des personnages. Tout ça est très bien. Le problème, c'est que très vite, la violence arrive et que cette violence devient, comme souvent, insoutenable et qu'après une, deux, trois, ça devient vraiment fatigant et ça vient nuire peut-être à la réflexion. Et puis, il y a toujours cette question du jeu. Alors, est-ce que c'est le jeu sud-coréen? Et que dans ce cas-là, ça ne me parle pas. Mais je trouve que dès qu'on est méchant ou dès qu'on est un petit peu quelqu'un de pouvoir, alors il faut qu'on joue de façon surexcitée. Et là, ça devient... Il y a ce TikToker insupportable, par exemple. Mais ça va du patron, de la police qui hurle. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et donc... Ça aurait pu être vraiment bien, je trouve que ça passe souvent à côté, mais il y a des choses intéressantes, et du moins, je suis allé jusqu'au bout quand même, avec, et je ne dévoilerai pas la fin.
C'est heureux, parce que sinon, vous devrez en enfer tout de suite. Ava.
Bah ouais, moi, l'extrême violence des épisodes m'a immédiatement rebutée, en fait, mais véritablement, d'autant plus que, comme tu le disais, c'est qu'on comprend très vite que le déchaînement de cette violence va devenir un motif régulier, puisqu'il est corrélé aux prophéties qui s'abattent sur les habitants de la ville de Séoul, donc des fléaux qui prennent la forme de golems, quoi, au point d'acier, aux yeux vert fluo, qui déboulent sur terre en faisant le bruit du tonnerre et qui réduisent, donc voilà, des hommes et des femmes à l'état de bouillie avant de cramer leurs restes. Trop cool. Ces séquences, elles sont vraiment effectivement insoutenables, et si la série effectivement elle veut dénoncer le voyeurisme de la société, son égoïsme, son insensibilité face à la violence, ben je trouve qu'en fait elle tombe dans tous les pièges et les écueils. Elle cultive nos bas instincts de spectateurs en se complaisant sans cesse dans le sang, dans la noirceur et dans un suspense que je trouve quand même hyper malaisant, notamment dans l'épisode qui joue furieusement avec nos nerfs et la mort d'un nourrisson. Je trouve ça affreusement facile, en fait. Donc voilà, c'est une série brutale et étouffante qui dépeint une société et une humanité qui sont plus sauvages que civilisées, voilà, à l'image de justement de ce commentateur hystérique dont tu parlais, Benoît, voilà, qui anime un chat sur les réseaux sociaux où il appelle la foule à la délation et au lynchage, donc chouette mec lui aussi. Voilà, on voit bien qu'il n'y a plus de boussole morale et que les plus véreux effectivement vont profiter de cet état de flottement pour créer du chaos. Donc voilà, il y a des thématiques effectivement qui m'intéressent, mais je trouve que c'est très très lourd en réalité. Voilà, moi je ne suis pas tout à fait séduite par cette série, je préférais les zombies du dernier train pour Poussin.
Moi aussi, je dois le reconnaître. Marjolaine, à vous de trancher.
Oui, non, effectivement, c'est une série qui n'a aucune subtilité, qui dénonce les travers de la société actuelle et notamment la folie des réseaux sociaux et le lynchage par des bandes de trolls qui, là, pour le coup, se retrouvent en position de pouvoir et avec... Moi, c'est pas tellement la violence des monstres qui m'a choquée, parce que à la limite on est dans de l'esthétique et dans un truc tellement tellement irréaliste que ça passait. Mais c'est la violence vraiment des hommes contre les hommes, et notamment quand il y a certains corps qui sont brûlés, non pas par des golems, mais dans des choses qui ressemblent furieusement à des fours crématoires. Ouais. Voilà, ça m'a vraiment glacée. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que donc c'est une série sud-coréenne, que la Corée du Sud, c'est le pays avec la plus forte proportion de chrétiens d'Asie, que c'est un pays aussi où les sectes chrétiennes sont extrêmement puissantes. C'est le pays qui est originaire de la secte Moon. Et aujourd'hui encore, ce sont les sectes chrétiennes qui ont notamment contribué très largement à la propagation du Covid dans ce pays. Donc on est dans un gloubi-boulga de christianisme avec effectivement la question du Messie, la question du péché originel, cet enfant nourrisson, l'approche de Noël, les images sont assez claires. Mais voilà, l'ultra-violence et effectivement cette hystérie où on passe de la douceur et de l'émotion à l'hystérie, c'est un peu compliqué. Je trouve le scénario est pas tenu et on sait pas trop en fait pourquoi on a regardé ça, quel est vraiment le message que ça a voulu nous donner. Donc finalement, je trouve ça assez vain.
Si je vous résume, elle est simple vers l'enfer pour Hellbound, voilà. La série coréenne disponible sur Netflix. Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else. Survivor de Nathaniel Redlife avec les Nights Suite. Extrait de Survivor, le nouvel album et création post-pandémique de l'artiste américain qui, sur ce titre, a donc retrouvé son groupe, les Nights Suite. Un album considéré par les critiques comme étant plus mûr, tant sur le plan de la composition musicale que du côté des textes qui font écho aux temps troublés au cours desquels ils furent écrits et résonnent, non sans humour, des craintes du chanteur qui a pris, comme nous tous, un soupçon d'embonpoint pendant le confinement. Je cite un extrait de la chanson, j'ai peur que le poids du monde te rattrape. J'ai peur d'admettre qu'il m'a rattrapé aussi.
France Inter. Une heure en série.
C'est le moment d'un conseil littéraire et je vous recommande de découvrir Murnau des ténèbres de Nicolas Chemla aux éditions Le Cherche Midi.
1929, Murnau, un maître absolu du 7e art, se rend au Marquise pour y tourner Tabou, qui sera l'un de ses plus grands films. Une ode sensuelle au corps, à la nature et à l'amour, mise en scène dans des contrées culturellement et socialement saccagées par le colonialisme de l'homme blanc. Un film bruissant de beauté, envoûtante, mais que son créateur ne verra jamais puisqu'il mourra dans un accident de voiture une semaine avant la première. Près de 80 ans plus tard, l'auteur du livre se rend sur le lieu du tournage et il fait connaissance d'un ancien collaborateur et donc sans doute amant du cinéaste, un homme de plus de 100 ans mais qui semble aux yeux du narrateur rejeunir au fur et à mesure qu'il raconte les péripéties tragiques qui émaillèrent les prises de vue de ce film à nul autre pareil. Car l'auteur de Nosferatu ne cessa d'endurer des difficultés pour réaliser Tabou, comme s'il avait réveillé quelques forces des ténèbres et que celles-ci s'échinaient à ruiner son travail. Entre autres exemples probants, un jour, en cherchant la place idéale pour installer ses caméras, Murnau déplace et jette à l'eau une pierre sacrée. Horrifiés, les habitants lui prédisent le pire. En effet, comme déchaîné par une force invisible, la mer qui était pourtant jusque-là très calme se déchaîne quelques brefs instants pour littéralement arracher les deux caméras et les précipiter dans le fond des eaux. De ce tournage malmené, Nicolas Chemla fait ici un récit d'aventure cinéphile ponctué de mystères opaques et d'étrangetés délétères. Une véritable réussite, Murnau des ténèbres de Nicolas Chemla aux éditions Le Cherche Midi. Moiraine, puissante magicienne, recueille quatre jeunes gens d'une vingtaine d'années à la suite de la destruction de leur village par les Tolocs, monstres à l'allure de Ménotaure, armée hégémonique envoyée par le Ténébreux. Car parmi ces quatre rescapés, notre héroïne espère que l'une ou l'un d'entre eux se révélera être la réincarnation du dragon, un héros tout puissant dont la prophétie affirme qu'il pourrait être à l'origine soit de la fin de l'humanité, soit de sa survie. The Wheel of Time, une série en 8 épisodes, disponible sur Prime depuis le 19 novembre, une série en forme d'odyssée épique et magique et presque philosophique, car cette fameuse roue du temps qui nous emporte définitivement dans le sens unique de sa révolution, ne rêvons-nous pas un jour de la voir inverser son cours et nous libérer enfin des limbes de la mort? The Wheel of Time, annoncé peut-être un peu précipitamment par la chaîne, comme le nouveau Game of Thrones.
Prête serment, Moiraine Sedai. Je jure de ne jamais dire de mots qui ne soient vrais, de ne fabriquer aucune arme destinée à tuer, et de ne jamais utiliser le pouvoir de l'unique comme une arme.
Tu sais ce que veut dire Aes Sedai en langue ancienne? Servante de tous. Ce sont elles qui servent le monde.
Je n'ai pas choisi ce chemin, mais je le suivrai.
Où allons-nous?
À deux rivières. Le sang ancien coule profondément dans ces montagnes. Espérons que ça les a préparés à ce qui va déferler. Le Ténébreux se réveille.
Des romans éponymes de Robin Jordan, The Wheel of Time ou La Roue du Temps en VF, est une série télévisée américaine créée par Rafe Judkins avec Rosamund Pike, Daniel Henné, Zoe Robbins et Madeleine Madden. Nous n'avons vu que les 3 ou 4 premiers épisodes, si vous avez bien travaillé ou si vous avez eu le courage. Du côté de la presse, c'est pas l'enthousiasme général. Télérama résume plutôt bien la vie générale. La version grand luxe d'une partie de Donjons et Dragons animée par un maître de jeu bien peu imaginatif. Marjolaine.
Oui, alors grand luxe, j'ai pas trouvé en fait. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point c'est cheap. Les costumes, c'est une catastrophe. On voit la fausse fourrure, une espèce de feutrine. Enfin, vraiment, c'est trop lisse, très
pour
moche.
Être honnête. Ouais, c'est presque ça.
Les couleurs sont dégueulasses, ça crache, ça crie. Après, bon, les paysages, c'est ce à quoi on s'attend. Il y a de la forêt, il y a de la montagne.
Il y a du minéral, il y a de l'eau, tous les éléments y sont, nous sommes d'accord.
Voilà, tous les éléments y sont. Bon, c'est joli, on se balade à cheval. Dans le deuxième épisode, on ne fait d'ailleurs que ça. Voilà, on se promène à cheval, parfois on chante et puis on se raconte des histoires tristes. Ok, ça dure 50 minutes. La médiévale fantasy,
c'est tellement bien résumé en fait.
Hein, voilà. Et même Rosamund Pike, que j'aime beaucoup, et j'en profite pour redire tout le bien que je pense du podcast Edith, dans lequel elle prête sa voix donc à la femme de Wilson, eh bien, elle a l'air de s'ennuyer. Et effectivement, là encore, ses pouvoirs s'étiolent. Et comme nous, en fait, comme notre patience devant cette histoire qui ne décolle pas. L'histoire n'a aucun intérêt. Il y a un pseudo-discours féministe qui tient sur un ticket de métro qui n'existe plus. Voilà, on a envie de revoir Xena la guerrière parce que
oh non,
au moins,
faut pas exagérer
si,
non plus.
Si, tant qu'à faire du cheap, autant assumer et aller dans l'humour et le camp à fond. Ah là, ouais, ça se prend trop au sérieux et ça n'a pas les moyens. C'est pas du Peter Jackson, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Enfin, vraiment, faites autre chose. Quoi.
Bon, saluons quand même la souplesse de corps de Rosamund Pike, qui, quand elle essaye de dresser la lumière, le feu et le machin, se combre en arrière, mais je veux dire, bravo. Bravo. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à regarder d'autre, évidemment. Benoît.
Moi, je trouvais qu'au départ, ça commençait plutôt pas mal, ces beaux paysages qui ressemblaient aux paysages de mes ordinateurs, vous savez.
Oui. Encore
non, mais c'était assez beau. Et puis, ces personnages, ces peuples qui vivent dans des villages assez sympathiques, c'était la petite maison dans la prairie qui rencontre la fantaisie. Moi, j'aimais bien ça au début. Je trouvais que c'était pas mal.
Et puis, au consulter quelqu'un pour vous débarrasser de la petite maison dans la prairie.
Et puis, ça dure.
Il y a des petits
Non, j'aurais pu citer Dr. Quinn, si vous voulez. Et puis, après...
C'est la chemise de flanelle.
Et puis après, au bout de 40 minutes de ce premier épisode, le ténébreux et les méchants arrivent. Et là, alors, ils ressemblent avec... Enfin, c'est horrible. Et là, ça dure. Et ça dure. Ouais. Et on parlait de violence tout à l'heure. Et là aussi, moi, je trouve qu'à un moment donné, faut qu'il se calme. C'est pas parce qu'on est sur une série là qui passe là sur une plateforme et que donc on peut se permettre de montrer autant de violence, voilà, qu'on peut tout montrer, faire durer. Ça devient mais vraiment insupportable. Long, c'est violence. Et à partir de là commence la fameuse épopée hyper classique de la fantasy où chaque épisode, on est comme sur un jeu de plateau. Alors on avance d'épisode en épisode. Et effectivement, c'est long, il marche. Je me le suis laissé porter un petit peu et puis au bout de deux épisodes, je suis là en train de me dire, est-ce que c'est enfin la série qui va me réconcilier avec la fantasy à la télévision ? Eh ben, malheureusement non. J'ai pas envie de suivre les plus de trois épisodes qu'on a vus.
Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le premier épisode, ça commence par un résumé de l'action. Mm-hmm. On vous explique le ténébreux, le dragon, la réincarnation. Et ça termine par un résumé puisque l'action n'a toujours pas démarré.
Voilà,
on nous dit, donc on va bien chercher le dragon, peut-être la réincarnation pour tuer le ténébreux. Donc il y a bien un aveu d'échec à l'intérieur même d'ailleurs de la dramaturgie et des dialogues. Vous voulez sauver un tout petit peu cette roue du temps?
Malheureusement pas du tout, parce qu'en plus elle essaye de marcher sur les plates-bandes d'une de mes séries préférées qui est Game of Thrones, et c'est tellement
sur laquelle
visible.
J'ai écrit un remarquable ouvrage.
Remarquable, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai écrit, mais voilà, c'est tellement visible en fait que ça en devient risible, jusqu'à cette réplique d'ailleurs, You Know Nothing, qu'on entend dans l'épisode 3 et qui fait écho à l'une des plus célèbres répliques de Game of Thrones. Donc bref, moi je l'ai toujours dit, ce qui m'intéresse davantage dans Game of Thrones que l'heroic fantasy, c'est la nature des relations entre les personnages et les tensions géopolitique qui en découle. Et là, malheureusement, j'accroche pas du tout avec les personnages, puisqu'il manque d'épaisseur, il manque d'humanité. Les acteurs, ils font bien ce qu'ils peuvent pour les interpréter, mais de toute façon, dès le départ, la série a choisi de miser sur le décorum et sur l'action au détriment des personnages, de leur psychologie et des intrigues qui sont pas très épaisses, hein, en réalité, elles non plus. Donc voilà,
comme le charisme des comédiens, faut dire les choses.
Voilà, mais je vais vous donner un exemple précis. Dans le premier épisode, les principaux personnages donc, qui ont été introduits, on leur jette tout de suite des gros trolls à la gueule. Donc on les voit se battre et se défendre, mais puisqu'on ne sait pas grand-chose d'eux, en fait, on les regarde juste se battre et se défendre. Ouais. Quoi. Donc vraiment, résultat zéro. On est toujours dans la démonstration de force, y compris dans les dialogues, et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc voilà, moi j'ai vraiment un gros problème de crédibilité quoi, face à cette série. Et pardon, j'y reviens, mais là où Got était réjouissant et gagnait son pari, c'est que ce n'était pas juste haletant ou juste sanglant, c'est que c'était intelligent, c'est que c'était précis, c'est que c'était fouillé, et qu'il y avait un effet miroir évident entre la fiction et la réalité. Là, on la cherche, vraiment. Ouais.
Un petit tour, et puis s'en va, c'était le destin de La Roue du Temps, diffusé sur Prime.
Les murs sont tachés, la porte est cachée. Les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer. Un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. La tranquillité, la journée, le phono abandonné. Je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. La journée m'a tué. C'était le début. Mais vite, ce fut la suite. Le feu au château, l'oiseau dans le mazout, l'eau ton caboute, la neige crado. La mort du frigo, la porte est arrachée. Les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer. Un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. La tranquillité. Le phono abandonné, je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué.
Au début, c'était le début par les Liminanias, Laurent Garnier et Bertrand Belin. Et oui, ils sont quatre pour ce nouvel extrait du duo de Lionel et Marie Liminanias. Album pour lequel ils ont travaillé avec Laurent Garnier, pionnier. Je reprends les mots de Rebecca Manzoni, notre déesse à tous et à toutes. De la musique électro, les amateurs de la chanson française auront certainement reconnu sur ce titre la voix unique, caverneuse et enjôleuse de Bertrand Belin. Les Liminanias seront donc sur scène au Trianon à Paris le 6 décembre. Il y a d'autres dates que vous pourrez trouver sur leur site.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan. L'actualité était riche cette semaine, c'est le moins que l'on puisse dire. Cher Benoît, et ce soir vous souhaitiez revenir sur la série de l'année 2019 qui nous avait toutes et tous marqués dans Une heure en série, mais pas que. Et nous avions d'ailleurs été unanimes sur la série. L'actualité récente au large de Calais vous a immédiatement refait penser à cette immense série.
Exactement, retour sur la série Years and Years de Russell T. Davies dans laquelle on y suit la vie des Lions, une famille de Manchester de 2019. À 2030, je rappelle le principe, leur vie avance très rapidement, année après année, épisode après épisode. Le contexte, la Grande-Bretagne se retire de l'Europe, c'est le Brexit. Et une certaine Vivienne Rooke, interprétée par Emma Thompson, célébrité populiste, monte sérieusement année après année dans les sondages avec ses prises de position controversées. Petit rappel, quand nous découvrons la série en août 2019 sur Canal+, la série est d'ailleurs toujours disponible sur MyCanal, Boris Johnson est Premier ministre depuis un mois. Le 24 juillet. Et la série Years and Years est déjà passée sur la BBC en mai et juin 2019, deux mois avant la nomination de Johnson. Le temps d'écrire et de tourner la série, Years and Years avait donc prévu l'arrivée d'un avatar plus plus extrême que Johnson au pouvoir. Il y avait donc, en tant que téléspectateur, quelque chose d'assez troublant à suivre une série qui imaginait l'ascension d'une telle personnalité populiste comme Vivienne Rook. Mais bon, le Brexit est un feuilleton politique interminable dans l'actualité depuis quelques temps déjà en 2019. Et au fond, la série témoigne avec finesse du regard de Russell T. Davis hein, quand il écrit Years and Years. En fait, il ne fait qu'imaginer, anticiper ce qui peut advenir à la Grande-Bretagne et à l'Europe en poussant le curseur un peu plus loin. Alors si la série s'est trompée ou trompée hein, sur l'avenir politique de Donald Trump, car Trump n'a pas remporté un second mandat comme le dit la série, en revanche, le regard de Years and Years sur l'impact du Brexit, la montée de l'extrême droite et la crise des migrants, cela fait froid dans le dos.
Et sur la question plus particulière des frontières qui se referment, la série prend un tournant particulier, notamment autour du personnage de Daniel Lyons.
Oui, Daniel Lyons s'occupe d'un camp de réfugiés. Sur place, il tombe amoureux de Victor, un Ukrainien qui fuit les violences à l'encontre des homosexuels dans son pays. Mais les frontières de la Grande-Bretagne se referment, les idées d'extrême droite deviennent un lieu commun et Victor est renvoyé dans son pays, l'Ukraine, qui en 2025 criminalise l'homosexualité. Daniel va tout faire pour retrouver Victor, au risque de l'illégalité. Il va tenter de faire passer la frontière à son compagnon, à leurs risques et périls, de l'Espagne à la France, planqué dans la soute d'un bus. Une fois arrivé sur les côtes françaises et plusieurs mésaventures, le seul moyen de se rendre à Douvres et de payer grassement des passeurs et de tenter de traverser la Manche en bateau.
Hé, hey, t'as vu ? On est plus proche de l'Angleterre maintenant. Dans les 30 km. C'est par là.
Allez, on bouge, on bouge ! On bouge plus vite, allez, allez, allez !
C'est ça le bateau ? C'est le bateau qui nous conduit au bateau ?
Non, je crois que c'est le bateau.
Bon.
Tant pis, ça va aller. 30 km, c'est tout. Il y a 30 km.
Allez, bagnez-vous, putain!
La traversée ne se passera pas comme prévu. Il faut dire que le bateau n'est qu'un zodiaque et qu'ils seront bien trop nombreux à bord. Victor s'en sortira et c'est lui, une fois en Grande-Bretagne, qui annoncera la mauvaise nouvelle à la famille de Daniel.
On pensait pouvoir traverser la Manche. Mais à la télé, ils parlent de 17 cadavres. C'était Daniel. Il est mort. Il s'est noyé. On était à 1 km de la côte.
Mais ça fait loin.
Nous sommes ici dans la fiction. Mercredi, c'était dans l'actualité. On apprenait que 27 migrants étaient morts en mer au large des côtes françaises alors qu'ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni à bord d'une embarcation. Tragique effet miroir.
Mille merci et bravo, cher Benoît Lagan, pour ce remarquable effet miroir que vous pouvez réécouter, évidemment, en podcast sur le site de l'émission. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter avec ce soir Marjolaine Boutet, Ava Cahen et Benoît Lagan. Nona a 70 ans, elle est la mère de 3 triplés ES, hein, il faut signaler que ce sont 3 filles, qui viennent de fêter leurs 44 ans. Nona habite à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, rue du Poulet, très exactement, et travaille depuis toujours au centre du planning familial, installé en face de chez elle. Une figure, pour ne pas dire une icône, du féminisme des années 70, femme libre et affranchie. Ultime détail biographique, mais de prime importance, Nona vient de découvrir qu'elle est enceinte. Nona et ses filles sur Arte, une série en 9 épisodes disponible sur la chaîne à partir du 2 décembre, et déjà disponible en intégralité sur Arte TV. 9 épisodes qui donnent naissance à une série qui commence comme une blague et nous emporte dans son déluge de tendresse, d'humanité, de causticité et de cocasserie, une comédie girl power où il sera question entre autres d'amour pluriel, d'une paternité mystérieuse, d'une étrange lueur rouge, d'un très très beau sage-femme allemand, ça donne vraiment envie de faire des enfants, oh là là, on est d'accord hein. Ouh. Et de sororité solitaire, j'en perds mes moyens, et surtout d'amour, c'est simple, c'est beau et bouleversant comme du Anne Sylvestre.
Je vous parle d'un endroit où la peur, la responsabilité, la culpabilité s'entremêlent. D'un endroit où l'on est seul pour affronter les hommes. D'un endroit où l'on n'est ni la maman, ni la putain. Je vous parle d'un endroit que vous, les hommes, ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la douleur des règles, ni celle de l'accouchement. Vous ne connaissez pas l'injonction d'être mince, d'être belle, d'avaler des pilules pour ne pas avoir d'enfants, d'être épilé, bien habillé, pas trop long, pas trop court, pas trop surtout, mais pas trop quoi. Être une femme sans être une menace. Être une femme en restant à sa place, mais laquelle ? Je vous parle d'un endroit que les hommes ne connaissent pas. C'est certes l'endroit de la peur, mais aussi de la puissance matricielle. Cet endroit, vous pourriez venir. Vous pourriez avoir la curiosité de voir ce qu'on y voit. De la liberté, de la sororité, de la solidarité. Un endroit où l'on sait ce que c'est que risquer sa vie pour donner la vie.
Bon, là, on a déjà un petit peu les larmes aux yeux quand même. C'est extrait du 7e épisode. Remercions Marie-Annick Rimbaud qui a fait un travail d'orfèvre parce que le monologue est plus long, mais il est tout aussi beau. Je trouve qu'elle en a gardé la quintessence. Donc, merci à notre réalisatrice d'avoir réalisé ce petit travail d'orfèvre. Nona et ses filles, une série créée par Clémence Madeleine Perdria et Valérie Donzelli. Valérie Donzelli qui réalise la série, interprète l'une des trois filles de Nona et qui s'est entourée d'une distribution étincelante de complicité. On y retrouve Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M, Barnaby Metchourat, c'est le sage-femme noté Antoine Reynard, c'est pas mal non plus, et Michel Villermoz. Bon ben là c'est unanimité du côté de la presse, première à craquer pour ce petit bijou d'humour surréaliste à la tendresse infinie. Une pleine page ce matin dans Libération fort méritée, et les Inroc ont apprécié le côté déjanté de la série. C'est juste et c'est presque un peu réducteur. Cher Ava.
Ah ben moi j'ai adoré aussi cette série, elle est profonde, elle est ludique, et plus l'intrigue avançait, plus le ventre de Nona poussait, et plus l'émotion me gagnait, quoi, en réalité. Voilà,
oui, Donzelli, corps,
c'est, bah oui, c'est ça. Donzelli, elle pioche à la fois ici dans la fable, le vaudeville, la comédie musicale un peu façon Jacques Demy, mais il y a aussi des clins d'œil rétro à la Bibliothèque Verte et au Club des Cinq, sans oublier une petite touche de surréalisme qui infuse jusque dans les noms des personnages. Hein. L'amant de Nona s'appelle André Breton, elle, c'est trop mignon. Voilà, on a un pied en fait dans le monde adulte et un pied dans le monde de l'enfance où toutes les aventures sont permises, et c'est par cette brèche, voilà, entre les deux mondes que va glisser, se glisser le hasard, le mystère, la magie. Moi, j'ai toujours aimé hein, la fantaisie de Donzelli, son sens du burlesque qui évoque aussi celui de Jacques Tati.
Nous sommes d'accord.
Sa folie douce, voilà, son côté lunaire et aussi sa manière, voilà, l'air de rien, de balancer justement dans l'air des équations sociétales compliquées qu'elle essaie de résoudre vraiment de manière pédagogique et avec beaucoup d'humour. Voilà, elle arrive de façon très malicieuse dans cette mini-série qui multiplie vraiment les rebondissements, donc elle adopte vraiment les codes du feuilleton. Donc voilà, elle arrive à déconstruire les clichés sur la maternité, sur le féminin, sur la famille, et proposer une vision plus juste, c'est ce que vous disiez, pluriel aussi, des modèles féminins, des modèles féministes et des modèles familiaux. Miu Miu est absolument génial. Donzelli se donne le rôle de la Quadra Thésarde qui habite encore chez maman, qui a jamais eu d'amant. Elle se donne pour sœur, vous l'avez dit, Virginie Ledoyen, qui a vraiment, je trouve, enfin, la comédie dans le sang, quoi. La comédie lui va bien au teint. Et Clotilde M est absolument bouleversante. On a envie de faire partie de cette famille atypique, de jouer les détectives, voilà, de jouer aux devises. Net, parce qu'il n'y a pas beaucoup de secrets en fait dans cette série, puisque les murs ont des oreilles en permanence. Donc voilà. Et moi j'ai très envie d'habiter rue Poulet avec tout le monde.
Je vous interromps parce que Marjolaine est désespérée. Je pense que vous avez dit tout ce qu'elle voulait dire. Alors, mais la série était tellement riche, Marjolaine, je ne peux pas penser un instant que vous n'ayez plus rien à dire.
Effectivement, Ava a dit l'essentiel et extrêmement bien, donc c'est un peu difficile d'enchaîner derrière, mais oui, moi je trouve que avec après Romane Bohringer et L'amour flou, Valérie Donzelli montre que le cinéma d'auteur, et en l'occurrence le cinéma d'autrice, est compatible avec le format série télé.
Très juste,
et que ça y gagne en cohérence scénaristique. Ouais. Qui est souvent ce qui manque un peu dans le cinéma d'auteur français, sans en perdre ni en charme ni en fantaisie. Et effectivement, moi, le premier épisode, Miu Miu enceinte à 70 ans, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ça fait sitcom, on redoute le pire.
Oui, oui. Et puis on se dit, mais pourquoi, mais comment, mais bref. Et en fait, on se laisse vraiment, effectivement, prendre, et Ava l'a très bien dit, par cet appartement de la rue Poulet, qui est vraiment le personnage de cette série. On a l'impression d'y vivre, comme l'appartement de Friends, d'ailleurs. Enfin, je spoil pas la fin, mais bref. je trouve que vraiment cet appartement est un personnage à part entière, qu'on y vit, qu'on y dort un peu n'importe comment, n'importe où. Il y a les 5 petits-enfants à un moment qui débarquent. On est 10 dans cet appartement immense, donc on a l'impression que la taille vraiment varie en fonction, effectivement, comme le ventre de Nona. Effectivement, et c'est tellement parisien, c'est tellement français, c'est tellement cinéma. La musique est absolument incroyable. La musique de Philippe Jacquot, qui est à la fois, qui effectivement évoque l'enfance, la fantaisie, Jacques Demy. Il y a des moments où on chante, il y a des moments où on regarde la caméra. Vraiment, on ne s'interdit rien. Et c'est formidable. Enfin, vraiment, c'est 10 épisodes de pur bonheur. On est ému. Et ça donne envie de fêter Noël en famille, voilà.
Pour quelqu'un qui craignait de ne rien avoir à dire, je pense que vous avez très bien rempli votre contrat. On y relit même dans cet appartement fantomette.
Oh, mais oui,
l'icône
bah voilà.
absolue
mais oui,
du féminisme. Oui. Benoît Lagan, dans ce monde de femmes, vous aurez trouvé votre place, bien évidemment.
Oui, moi j'ai complètement adoré Nona et ses filles. Et d'ailleurs, Marjolaine, tu citais l'amour flou. Je reviendrai pas sur l'amour flou, mais je trouve que c'est justement la preuve que Nona et ses filles réussissent là où moi je trouvais l'amour flou échoué, c'est-à-dire que ce lieu, cet appartement, effectivement, est un vrai personnage. On le comprend. On y est chez nous. Effectivement, on finit presque par comprendre même comment ça fonctionne à l'intérieur, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'autre série. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que, comme dans toute bonne série, il y a une arène qui fonctionne, la rue Poulet. Il y a des personnages hyper bien campés qui fonctionnent aussi. Les personnages féminins, ces trois sœurs, c'est génial cette idée-là. Parce qu'en fait, Valérie Donzelli, Virginie Ledoyen, Clotilde Haim, a priori comme ça sur un papier, est-ce qu'elles font tripler ? Pas du tout. Et en fait, si ! Valérie Donzelli réussit complètement ça. Après, on retrouve la fantaisie que moi j'avais beaucoup aimé dans le premier film de Valérie Donzelli, La Reine des Pommes, avec ses fermetures à l'iris, avec lesquelles elle joue souvent.
Hommage à Lio en plus. Ouais, hein, voilà. Toujours un très bon moyen de commencer.
Et puis il y avait, c'est très BD aussi dans la façon dont c'est écrit, et ça je trouve que c'est extrêmement bien ficelé. Et les hommes là-dedans, il y a pas que le sage-femme. Bon, je trouve qu'ils sont tous. Ils sont tous extrêmement, je trouve, réussis. Oui. Et d'ailleurs, Villermoz, par exemple, même ça m'a fait penser à OVNI, par exemple. Ouais. Et je trouve qu'il y a un peu la même mécanique que ce que j'avais aimé dans la série OVNI la saison dernière sur Canal, où il y a de la fantaisie et pour autant, il y a un suspense. Parce que le suspense de la grossesse de Nona est quand même là. Et je trouve que c'est l'amour du feuilleton. Et le générique, avec la typo des vieux génériques des années 70 et 80, est là aussi pour nous le rappeler. Donc en fait, c'est une grande série qui épouse toutes les formes sérielles de la BD, de la télévision et du cinéma aussi. Enfin, c'est une grande réussite.
Ouais. En plus, Valérie Donzelli pétille d'idées et d'envie. Ah ouais. Il y a des passages en 35 mm, sans doute faux 35, mais c'est pas grave, qui rappellent justement la jeunesse de Nona quand elle était très proche d'une autre femme, puisqu'elle n'a pas totalement abandonné sa bisexualité, même à 70 ans. Bref, j'ai envie de dire, s'il y a une famille, s'il y a un appartement, s'il y a une rue où on a envie d'habiter, c'est clairement chez Nona avec ses filles. Ah ouais. Donc, s'il vous plaît,
et
Valérie.
J'ai beaucoup aimé aussi la thésarde qui ne finit jamais sa thèse en tant qu'universitaire.
Et vous citiez Anne Sylvestre, mais on pourrait citer John Baez aussi, parce qu'il y a la très belle chanson de Donna Donna, qui vraiment qu'il faut qui est admirable.
Ouais, il y a tellement de références et très maîtrisées qu'on pourrait en parler pendant des heures.
C'est la série de la semaine, c'est la série du mois, c'est peut-être la série de l'année, Nona
de
et
Noël.
Ses filles, sur Arte, et c'est gratuit.
Est-ce que si on l'avait fait, on ferait l'effet que l'on se fait chaque fois, si on je sais que c'est moi, tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi. Dès que je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi.
que je te vois, Vanessa Paradis, 23e single de Vanessa Paradis et deuxième extrait de l'album Divine Idylle, sorti en 2007, écrit et composé par l'excellent Mathieu Chédid. Deux immenses talents qui se conjuguent ici pour un opus qui remporta un très large succès public, 600 000 albums vendus, vous vous rappelez à l'époque, et valut à son interprète d'être désignée artiste-interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique.
France Inter. Une heure en série.
Comme vous avez été très sage et que vous avez beaucoup aimé Nona et ses filles, je vais vous donner une petite récompense. Vous avez un peu de temps pour le plateau télé. Marjolaine, vous commencez par nous recommander. Alors, c'est la quatrième saison sur Salto, mais toute la série, 4 mariages et un enterrement. Alors, certes, le titre nous donne une idée du résumé, mais je vous laisse quand même rappeler aux auditeurs qui n'étaient pas nés en 94 quand le film est sorti, de quoi il en cause.
Donc, 4 mariages et un enterrement, c'est effectivement une la comédie romantique britannique par excellence, film de Mike Newell en 1994, qui a fait de Hugh Grant une star et qu'on a vu ensuite dans tout un tas de comédies romantiques, auxquelles la série rend hommage aussi. Hein. C'est pas que 4 mariages en enterrement. Il y a vraiment des scènes qui sont inspirées de Love Actually, de Coup de foudre à Notting Hill, et ça fait partie du plaisir aussi de téléspectateurs et de téléspectatrices de retrouver justement ces citations visuelle. Donc, c'est une série écrite par Mindy Kaling, qu'on connaît de The Office et qui maintenant passe avec succès au scénario et à la production de séries télévisées, entre autres. Et donc là, on suit donc Nathalie Emmanuel, qui était l'esclave affranchie conseillère de la Khaleesi dans Game of Thrones. Ah. Ça, c'est pour Ava. Et Nikesh Patel, qu'on a vu dans Indian Summers, disponible sur Netflix. Très bel acteur britannique. Donc, dans les rôles principaux, donc de l'américaine qui tombe amoureuse du britannique. Mais évidemment, ça va être très compliqué. La bande de copains s'en mêle. Et évidemment, on les suit entre Londres et les États-Unis à la recherche du grand amour et à la recherche d'eux-mêmes, sans essayer de perdre leur lien d'amitié. En cette période déprimante du mois de novembre et de cinquième vague, vraiment, je recommande très fortement de se plonger dans cette série, voilà, pour ses références, pour des acteurs qui ont une vraie fraîcheur. Et voilà, ça met ces comédies romantiques britanniques à la sauce millennials américaine. C'est un petit peu sucré, mais en ces périodes de fin d'année, allez-y.
4 mariages et un enterrement, la série, donc 4 saisons disponibles sur Salto. Benoît, vous nous recommandez de découvrir sur France 2 une nouvelle série, Le Code.
Oui, une série judiciaire qui arrive mercredi, mais qui est déjà disponible sur Salto, pour ceux qui ont la plateforme. C'est l'histoire d'un cabinet d'avocats basé à Lille. En fait, tout commence au départ par Idriss Thomas, charismatique avocat, qui travaille dans un cabinet parisien. Il défend les riches, les puissants, sauf que voilà, au tout début de la série, il se fait tirer dessus. Un éclat de balle reste bloqué dans sa boîte crânienne et du coup, il sait qu'à tout moment, sa vie peut basculer. Et donc, il décide de quitter Paris, partir à Lille, renouer avec sa ville natale et là, créer un cabinet avec des complices, Nadia Ayad et Jeanne Van Oven, la légende, mais qui est en fait une avocate qui commence à perdre la mémoire et donc qui n'est plus du tout la légende qu'elle croit encore être. Et on va avoir ce trio qui va mener donc des affaires à Lille. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un faux polar. On est vraiment dans la série judiciaire telle qu'on pouvait les aimer, notamment dans les années 90 avec David E. Kelley, The Practice, Ally McBeal. Les personnages sont bien campés. La série est signée Lionel Olinga, Cécile Even, Nicolas Robert. Je les cite parce qu'en fait, ils se sont connus tous les trois sur Shérif. Donc, la culture série, en fait, qui nourrissait le polar Shérif et qui venait comme ça, ce flic qui enquêtait en utilisant des trucs qu'il avait vus dans les séries télé. On voit bien que ces gens aiment les séries de network à l'américaine et que c'est ça qu'ils ont essayé d'infuser dans Le Code. Et ça marche plutôt bien, il y a 6 épisodes à voir donc, et avec des thématiques qui sont en écho avec l'actualité. Je dis rien, juste il y a un épisode 3 qui rappelle un scandale sexuel qui pourrait peut-être rappeler une affaire dont on a entendu parler ne serait-ce que cette semaine.
Merci beaucoup Benoît. Le Code, donc sur Salto déjà, et France 2 ce sera
à partir du 1er décembre, et le comédien principal avait eu le prix du meilleur acteur à Série Mania, Daniel Joe Lobé.
Cher Ava, il vous reste un tout petit peu de temps, vous vouliez revenir sur
le palmarès de Marseille Série Stories, le premier festival de séries consacré à l'adaptation littéraire.
C'est ça, on a eu le privilège hein, pendant 4 jours de découvrir 8 séries en avant-première qui avaient tout en commun d'être adaptées de romans ou de nouvelles. Alors, le jury, dont j'étais très très fière hein, de faire partie, a récompensé 3 séries de 3 prix différents parce qu'elles ont chacune à leur manière en fait tiré leur épingle du jeu et parce qu'elles racontent toutes différents états du monde à différentes époques. Donc le prix de la meilleure interprétation a été attribué à Agnès O'Caissy qui est l'héroïne de Ridley Road, une série d'espionnage qui se passe à Londres dans les années 60 et dont vous allez très très bientôt entendre parler puisqu'elle arrive sur Canal+.
Elle sera programmée évidemment dès que nous aurons une date définitive.
Voilà, formidable. Prix de la mise en scène est allé à Frédéric Jardin, le réalisateur d'Alger Confidentiel qui est une mini-série qui elle aussi va débarquer très très rapidement sur Arte et qui joue avec les codes vénéneux du film noir, tension politique, histoire d'amour, kidnapping, complot, tout ça, tout ça. Et le prix de la meilleure série...
J'aime bien le tout ça, tout ça, tout ça.
Et le prix de la meilleure série a été attribué à Je voudrais qu'on m'efface, qui est une série québécoise et qui raconte le triste quotidien de plusieurs familles et enfants d'un immeuble du quartier Saint-Michel dans le nord de Montréal. La série où on était à Marseille, mais là ça se passe à Montréal.
Ça pourrait tout à fait effectivement se délocaliser dans les quartiers nord de Marseille.
Mais la série n'a pas encore de diffuseur en France, ce qui
est bien
dommage.
Et elle a
obtenu
le prix du public, si je ne m'abuse.
Exactement. Donc voilà, on était complètement connectés. Et c'est effectivement une série très très émouvante qui vaut le coup d'œil. Donc j'espère que
TV5, peut-être, faut espérer qu'au moins TV5 Monde le diffuse.
Nous croisons les doigts. Une heure en série, c'est fini. Je vais vous remercier une fois encore d'avoir participé à cette émission avec autant de talent, de pertinence et de gourmandise, parce que vraiment, je crois que sur Nona et ses filles, vous avez donné envie de découvrir cette série. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écoutée. Petit rappel, nous avons recommandé ce soir ou pas Hellbound sur Netflix, non, hein, je crois que là, on peut oublier The Wheel of Time sur Prime, on peut encore plus oublier. En revanche, on se précipite sur Arte pour voir et revoir Nona et ses filles. La semaine prochaine, nous évoquerons Invasion sur Apple TV, American Rust sur Canal+, et J'ai tué mon mari sur 13e rue. Demain soir, à 20h, un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous nous envoyez vos courriers, un compte Instagram. L'émission a été réalisée vraiment de main de maîtresse par Marie-Annick Rimbaud, la programmation musicale assurée par Valentine Chedbois. Cette émission a été préparée avec Amel Caldi et ce soir à la technique, Jenab Sangaré.